Nous te remercions, Seigneur. Nous disons que nous t'aimons. Nous disons, Seigneur, qu'il n'y a personne d'autre comme toi, que tu es notre seul Dieu, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, notre seule source de vie. Tu es tout pour nous. Et séparés de toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Séparés de toi, nous ne pouvons rien faire. Ce soir, nous voulons reconnaître, Seigneur, ta grandeur, ta souveraineté, ta majesté, ta splendeur, ta sainteté, ta vérité, Seigneur, dans nos vies, ton autorité, Seigneur, sur nos vies. Sois béni, Seigneur, sois exalté. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour nous bénir, Seigneur, et bénir ceux qui sont à travers, Seigneur, la distance, à travers la technologie, Seigneur. Merci également de les bénir, car il y a portion de toi pour eux également ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de rentrer dans la parole, j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, pour s'il y a des requêtes ou des besoins. Il y a, dans ma famille, il y a un besoin au Chili. J'ai une tante qui est à l'hôpital, assez un état assez grave au niveau des voies respiratoires et on attend des résultats. Mais ça semble être assez critique. Donc son nom, c'est Anna. Anna, elle s'appelle, c'est une sœur de mon père, donc j'aimerais qu'on prie pour elle. Et si vous en avez, je vous demandais d'élever votre voix tous ensemble, de prier. Il y a des gens qui sont dans le besoin autour de nous. Il y a des gens qui sont affligés dans leur santé, des gens qui sont affligés par le deuil, par le décès, dans leur famille. On a pensé à la sœur Suze, la famille Innocent. Il y a des besoins. Prions. Il y a des choses qui se passent, mais Dieu est plus grand que tout. Notre Seigneur est au-dessus de toutes choses. Alors, élevons la voix et prions. Seigneur, c'est avec cette reconnaissance, cette révérence envers toi, Seigneur, envers qui tu es et ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, que nous venons avec, Seigneur, ces requêtes. Ces requêtes, Seigneur, soit de nous-mêmes, Seigneur, ou de personnes que nous connaissons, qui sont dans un besoin et dont nous savons, Seigneur, que tu peux faire la différence. Nous prions pour tous les gens qui sont malades dans l'assemblée, tous les gens, Seigneur, qui souffrent dans leur santé. Seigneur, tu dis que tu donnes la vie et la vie en abondance, que la parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Il est, Seigneur, de ta personnalité, Seigneur, de ta bonté, Seigneur, la guérison. Alors, Seigneur, nous nous appuyons sur cela avec confiance, avec foi, Seigneur, demandant ta grâce, ta puissance de se manifester dans la vie de nos bien-aimés, Seigneur, dans leur santé, pour qu'il y ait, Seigneur, une manifestation de ta gloire et de ta puissance sous forme de guérison, Seigneur. Nous prions également, Seigneur, pour ma tante au Chili, Anna, Seigneur, qui est à l'hôpital dans une situation, Seigneur, qu'on ne sait pas trop, mais toi, Seigneur, tu connais tout. Il n'y a rien qui est caché, Seigneur, devant toi. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Glorifie-toi à travers cette situation, Seigneur, que l'Évangile, le royaume de Dieu, puisse entrer, Seigneur, dans les cœurs et transformer, Seigneur, des vies pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous élevons également devant ton trône de grâce toute personne, Seigneur, toute famille qui est affligée, Seigneur, qui est dans le deuil, Seigneur. Nous pensons à la sœur Suze, à la famille, Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur, ce soir. Nous prions pour tous les autres, Seigneur, qui sont près ou qui sont loin. Ta grâce est suffisante. Ta paix, Seigneur, va au-delà de tout entendement. Ta consolation est précieuse, Seigneur. Tout ce que nous trouvons en toi, tout ce que tu es, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le manifester, le déverser dans le cœur, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés. qui sont affligés, Seigneur. Et toute requête, tout besoin, Seigneur, qui est déposé à tes pieds ce soir, Seigneur, nous avons cette foi, cette assurance que tu entends et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors, Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois loué dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, bien-aimés, on va aller maintenant dans le temps de la parole. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 9. Pour ceux qui étaient là dimanche et qui ont entendu le message dimanche, bien, aujourd'hui, c'est un peu la suite. Et donc, je vous promets, je ne prendrai pas beaucoup de temps. 1 Corinthiens, chapitre 2. Et le verset 9, pendant que vous cherchez, on fait un petit survol sur ce qu'on a parlé dimanche. On a dit que la foi, c'est comme la devise de Dieu. Donc, on a besoin d'une devise lorsqu'on est sur un territoire pour pouvoir transiger, acquérir, obtenir des choses. Et bien, dans le royaume de Dieu également, il y a cette devise qui circule, qui nous permet d'acquérir, de recevoir, d'obtenir, et c'est la foi. C'est la foi, et dans Hébreux 11, il est clair, net, précis, sans la foi, il est impossible. Il n'y a même pas l'option, et c'est impossible. Mais avec la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Donc, allons-y avec 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle soit source de bénédiction dans nos vies. On avait vu également dimanche qu'il y a tellement de bénéfices à vivre une vie dans la foi en Jésus-Christ. Parce que non seulement elle nous permet d'obtenir le salut et la promesse de la vie éternelle, bien que ces choses-là ne sont pas manifestées, nous croyons. Nous avons cette assurance, comme on disait, cette assurance, ce document, ce légal qui nous donne, qui nous confère la propriété d'une chose. Eh bien, nous avons cette assurance aussi lorsque nous sommes dans la foi en Jésus-Christ, que nous avons le pardon de nos péchés, que le sacrifice à la croix a valu la peine pour nous justifier et pour nous donner comme héritage la vie éternelle. Mais pas juste cela. Elle nous permet également, alors que nous marchons vers cette destinée éternelle avec Jésus-Christ, elle nous permet également de bénéficier des choses alors qu'on est ici vivant sur terre. Entre autres, et ce qu'on disait, c'était de connaître Dieu, de glorifier Dieu, de trouver le bonheur, d'expérimenter la paix, de profiter de la présence de Dieu. Bien-aimés, ce sont des richesses que le monde recherche, des richesses qui n'ont pas de valeur. On ne peut pas mettre un signe de dollar à côté de connaître Dieu, de glorifier de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu, de trouver le bonheur, d'expérimenter la paix et de profiter de la présence de Dieu. On ne peut pas mettre un signe de dollar à côté de ça et dire « ça vaut tant ». On est prêt à échanger cela pour un certain montant d'argent ou de valeur. C'est précieux. Et donc, la foi nous permet de bénéficier de ces merveilleux trésors en Jésus-Christ et dans son royaume. Et mercredi passé, le pasteur Florent a amené un sujet par rapport à la foi. Et dimanche, après l'assemblée, le pasteur André est venu me voir et m'a dit hey, « je travaille justement sur un message qui porte justement sur la foi, sur la condition de la foi, une une remise en question, disons, sur l'état de notre foi. Donc, le Seigneur, je pense, veut nous parler, veut attirer notre attention sur où est-ce qu'on se positionne par rapport à la foi et qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec cela. Ce que la foi nous permet de vivre et d'expérimenter, c'est quelque chose de, on va dire, surnaturel. Ça nous permet de rentrer dans la dimension du divin. De pas juste rester là dans la dimension de l'humain, du terrestre, mais de franchir cette barrière-là et d'entrer dans cette dimension de vie qui est extraordinaire. Parce que c'est une vie qui permet que Dieu puisse s'approcher, que Dieu puisse également agir dans la vie de la personne, mais aussi agir à travers la vie de la personne. Et c'est un peu ce qu'on veut amener comme approche ce soir, comme message. Et donc, lorsqu'on dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, c'est que, comme il est écrit, pourquoi ça commence comme ça? C'est parce que c'est une reprise, dans le fond, d'un texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est pas Paul ici, c'est pas une inspiration divine, c'est quelque chose qui reprend de l'Ancien Testament. Et on le retrouve dans Ésaïe, chapitre 64, verset 3. Mais ici, il dit ce que Dieu a préparé, dans le fond, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, ce sont des choses. Quel genre de choses? Eh bien, ce sont des choses que l'œil n'a point vues encore. Ce sont des choses que nos oreilles, tes oreilles, n'ont pas encore entendues. Et ce sont des choses qui ne sont pas montées encore à ton cœur. C'est-à-dire que tu n'y as même pas pensé, tu n'y as même pas le désir. Ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne le sais pas encore. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as jamais vu de ton existence. Tu ne l'as jamais entendu non plus. Et ça n'a pas encore monté dans ton cœur, c'est-à-dire que le désir, la pensée, le rêve, n'ont même pas encore été initié en toi pour que tu puisses dire, « Ah, moi j'aimerais ceci, ou moi j'aspirerais à ça, ou moi je vois ceci, ou je pense que... » C'est même pas encore rendu là, dans ta vie, que Dieu a déjà préparé ces choses. Et donc, ça nous prépare déjà, ça doit déjà nous dire, ben, ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pas ennuyeux. C'est pas une petite chose. La vie que Dieu a préparée pour toi en Jésus-Christ, c'est pas une moindre affaire. C'est pas une vie plate, religieuse, dans laquelle tu viens à l'église et tu retournes chez toi et tu vis une espèce de sous-culture dans une religion plus ou moins pertinente ou plus ou moins d'impact. Non. Ce que Dieu a préparé pour toi, pour que tu puisses en bénéficier, pour que tu puisses y participer, mais pour que tu sois également utile pour lui, eh bien, ton œil ne l'a pas encore vu, tes oreilles ne l'ont pas encore entendu, et ça n'a même pas encore été formé dans ton cœur. C'est spécial quand même. Parce que bien souvent, on pense que, et surtout avec Dieu, on est bon pour prendre Dieu pour acquis. On est bon pour dire, bon, ben, tu sais, avec la Bible, le christianisme, puis l'Église des apôtres de Jésus-Christ, ben, je pense que j'ai fait le tour du parc. Hein? Je pense que j'ai fait le tour de la question. Il n'y a pas grand-chose de nouveau qui va se passer. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui va se passer dans ma vie parce que c'est comme ça. Ou il n'y a rien de nouveau qui va arriver dans ma vie à cause de mon âge, à cause de mon éducation, à cause des diplômes que je n'ai pas, à cause de ci, à cause de ça. Et là, on se met une multitude de barrières parce qu'on se compare aux autres ou parce qu'on regarde vers l'intérieur Et lorsqu'on regarde vers l'intérieur, ben, on n'aboutit jamais vers quelque chose de l'avant. Alors que le Seigneur nous dit, bien, ce qu'il a préparé pour toi, sans même pas monter dans ton cœur encore. T'en as même pas conscience, t'en as même pas idée encore de ce que le Seigneur a préparé pour toi. Je pense que juste là, la perspective de tout devrait changer en nous. Parce que là, ça devrait dire, OK, là où est-ce qu'on pense que Dieu, où est-ce qu'on pense que Dieu a terminé, où est-ce qu'on pense que ça a fini, dans le fond, Dieu n'a même pas commencé. Là, on pense que c'est le temps de fermer les livres, d'éteindre la lumière, de fermer la porte, parce que c'est un chapitre de notre vie qui tire à sa fin. Ben, Dieu n'a même pas commencé encore ce qu'il veut faire dans ta vie. Et ce qui va nous permettre, te permettre, me permettre de rentrer dans cette dimension-là, c'est la foi. C'est la foi. Dans le passage, lorsque Jésus marche sur les eaux, dans Matthieu chapitre 14, versets 25 à 33, Pierre, un de ses disciples, le voit venir marcher sur les eaux. Au début, la première réaction, c'est qu'ils ont eu peur, ils ont pensé que c'était un fantôme. Puis j'imagine que les pêcheurs avaient des histoires de fantômes puis de légendes, tu sais, on entend partout. On est allé en Islande, puis des légendes de géants, de trolls, ci, de ça, de fées, de la mer, de vikings, il y en a plein. La littérature, elle est pleine. Donc, je peux imaginer que les pêcheurs, à l'époque aussi, ils avaient des histoires. Donc, de voir un fantôme, c'est oh my God, c'est en train de se réaliser devant moi, là. Une des légendes, peut-être, urbaines de l'époque. Et non, c'était Jésus qui marchait vers eux. Et là, Pierre dit, ben, si c'est toi, ordonne. Donc, envoie la parole, dis la parole, ordonne que je puisse aller vers toi. Donc, ordonne que je puisse, moi aussi, marcher sur les eaux. Et Jésus lui dit, ben, viens. Et à ce moment-là, ben, Pierre a pris la décision de sortir du bateau. Un pêcheur reste dans son bateau. Parce que c'est son lieu de travail, c'est son lieu familier. Il connaît le bateau, il sait comment ça fonctionne. Il est efficace sur un bateau. En dehors du bateau, il l'est moins. Il peut être en contrôle dans un bateau. Il peut savoir quoi faire, quelle va être la prochaine manœuvre, quelle va être la prochaine étape, la prochaine décision. Parce qu'il est habitué, il connaît, il y a de l'expérience, il y a de la connaissance. Sortir du bateau, ben, c'est ne plus savoir c'est quoi la prochaine étape. C'est ne plus savoir c'est quoi la prochaine manœuvre. C'est ne plus savoir qu'est-ce qui va arriver au prochain pas qu'il va faire. C'est de s'en remettre complètement, totalement au Seigneur. Et marcher par la foi, faire un pas de foi, c'est sortir de notre bateau. C'est sortir de notre milieu d'environnement que nous qualifions de familier, d'habituel, de normal. La foi, bien-aimé, va te sortir de là. Ou du moins, va t'amener, va pas te sortir de là, c'est pas vrai. Va t'amener à la porte. Va t'amener au bord. Et la décision de sortir de là, c'est toi qui vas toujours la prendre. De sortir ou de rester dans ton milieu. De rester dans ce que tu connais, dans ce que tu penses avoir contrôle, de connaître, de te sentir protégé en refuge. C'est toi qui prends cette décision-là. C'est pas le Seigneur. C'est pas la foi, c'est pas ton voisin, c'est pas ton épouse, c'est pas ton enfant. C'est une décision personnelle de faire un pas de foi. Mais lorsqu'on fait un pas de foi, il faut être conscient et avoir cette image-là. Je sors du bateau. et je m'expose à de l'inconnu. Mais si je crois dans mon Seigneur, si je crois dans sa parole, bien, je crois aussi que ce que Dieu a préparé pour moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu, ça n'a même pas été initié dans mon cœur. Mais je sais une chose, c'est que Dieu l'a préparé pour moi. Et ça, c'est l'essentiel de la marche par la foi, de la vie par la foi. C'est de se remettre au Seigneur. C'est de dire, je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape dans ma vie. Je ne suis pas sûr où est-ce que les choses vont aboutir. Je sais une chose seulement, c'est que je marche en regardant le Seigneur. Je marche en confiance et en accord avec la parole de Dieu. Et le reste, c'est le Seigneur qui s'en charge. Le reste, c'est le Seigneur qui s'en charge. Lorsqu'on parle de regarder le Seigneur, bien c'est exactement de garder le focus sur la parole. Lorsqu'on regarde la parole, on regarde le Seigneur. Lorsqu'on dit de porter nos regards vers le Seigneur, ce n'est pas qu'on regarde vers le ciel, vers les montagnes. On fait ça bien des fois, mais parce que c'est beau, c'est poétique, on regarde vers le Seigneur. Mais regarder vers le Seigneur, c'est regarder sa parole. D'avoir les yeux fixés sur lui, c'est d'avoir le focus, la concentration, l'attention sur ce qu'il y a dans sa parole. Et bien aimé, marcher par la foi ou faire un pas de foi, ben c'est pas un don. Si quelqu'un vous dit quelque part « j'ai le don de la foi », c'est pas vrai. Cette personne-là est dans l'erreur. Ou « j'ai le don de marcher par la foi », non, c'est pas biblique. La foi, c'est pas un don. La foi, c'est une décision. Tu décides ou non de croire. Tu décides ou non de faire confiance. Tu décides ou non d'obéir et de suivre la parole de Dieu. Dans Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11, il y a l'histoire de la pêche miraculeuse. Et quand, dans le fond, Jésus appelle les disciples, dont Simon, pour la première fois. Et après avoir enseigné, dans le fond, il y avait tellement de monde, puis là, on ne va pas lire, je vais juste vous expliquer le contexte. Il y avait tellement de monde qui s'était pointé au port, au bord, là, cette journée-là, ce matin-là, que Jésus a dû s'adapter pour communiquer son message. Il a vu que être juste sur le bord du rivage et de s'adresser aux gens, c'était pas la meilleure façon. Donc, il a vu des barques et il a vu la barque de Simon. Il a demandé d'embarquer sur cette barque pour pouvoir mieux s'adresser, mieux atteindre toute la multitude, toute la foule de personnes qui étaient là pour entendre. Et la parole est bien précise qu'ils disent pour entendre la parole de Dieu. Il y avait une soif, il y avait une faim pour la parole de Dieu et ces gens-là étaient là pour la parole du Seigneur. Et pendant que Jésus parlait, eh bien, Simon était en train de laver son filet, en train de nettoyer et d'arranger ce qui représentait ou ce qui représentait une nuit de travail infructueuse, sans succès, parce qu'ils n'ont absolument rien pêché. Ça peut être de l'insolite, du inhabituel, parce que sûrement que tous les autres barques qui sont rentrées au port ce matin-là avaient tous des produits, de la marchandise à vendre, à distribuer, mais pas Simon. Et lui, probablement, qui était fatigué, frustré, et la seule chose qu'il avait envie de faire, c'était de rentrer chez lui, se reposer un peu et oublier ce qui était arrivé. Mais après l'enseignement, Jésus dit à Pierre d'aller plus loin et de jeter le filet là où est-ce qu'il va lui dire. Ça, c'est Jésus qui s'adresse dans le fond à Pierre. Et Pierre répond ceci dans Luc chapitre 5, au verset 4, il est écrit, « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, donc retourne où tu étais, et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Marquez une chose ici. Simon a été très honnête avec le Seigneur. Simon, c'est pas campé contre le Seigneur ou contre le raisonnement du Seigneur. Il avait travaillé toute la nuit avec ses collègues. Il avait pêché absolument rien. Et il était sûrement fatigué, sûrement qu'ils avaient tout rangé déjà, prêt à partir. Et Pierre, c'est ce qu'il dit au Seigneur. Il dit, « Maître, on a pêché toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » L'autre mot, c'est « Seigneur, toute notre connaissance, toute notre expérience, toute notre expertise a été mise à contribution durant une certaine période avec l'objectif de pouvoir obtenir quelque chose en retour. Et le retour a été un néant, un zéro. Seigneur, on va pêcher la nuit parce que c'est le temps idéal, c'est là où il faut aller. Dès qu'on est, depuis l'enfance, on nous enseigne les techniques, on nous explique les temps, les meilleurs moments, peut-être même les meilleurs endroits pour aller pêcher. Donc, on connaît tout ça, Seigneur. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché, il n'y a rien qu'on ne connaît pas par rapport à la pêche, mais aussi par rapport à cette mer, parce que on vit ici. C'est ici qu'on travaille. On est habitué à ceci. Et là, toi, tu me demandes de faire quelque chose hors du commun, hors de tout raisonnement humain. Tu me demandes de... Et en plus, tu me demandes de retourner. Retourner là où j'ai échoué. Retourner là où je suis revenu bredouille. Retourner là où... Je n'ai pas vécu la bénédiction, où je n'ai pas eu de résultat, où je m'attendais à une chose et j'ai obtenu le contraire. Seigneur, tu me demandes de retourner là. Et donc, Pierre, il va avec cette sincérité-là, cette honnêteté-là. Il dit, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien péché. Mais, parce que tu le dis, sur ta parole, parce que c'est toi qui l'ordonne, eh bien, je vais obtempérer, je vais obéir, je jetterai le filet. La vraie foi conduit toujours à une vraie obéissance. Ce que nous appelons foi dans notre vie, si elle nous amène à obéir à la parole, c'est de la vraie foi. Si elle ne nous amène pas à l'obéissance, c'est quelque chose d'autre. C'est peut-être une croyance. On est peut-être sympathisant. On pense que c'est peut-être un courant de pensée qu'on a adopté, ou des principes, ou des valeurs qu'on a intégrées dans notre vie, mais que ça ne nous amène pas à une conviction, malgré les circonstances, malgré ce qu'il y a à l'extérieur, malgré ce qui se passe à l'intérieur, ça ne nous amène pas à une conviction d'obéissance. La vraie foi va le faire. La vraie foi va être claire dans ta conscience, dans ta pensée, que le seul moyen de l'obtenir, la seule, Le seul prochain pas que tu as à faire est un pas d'obéissance. Rien d'autre. Rien d'autre. Toute autre option qui t'amène sur une autre voie, ce n'est pas une vraie foi qui est en train de t'impulser ou de te motiver plutôt. C'est autre chose. Mais la vraie foi dans le Seigneur, dans sa parole, va toujours t'amener à une étape où est-ce que le fruit de l'obéissance va être visible, va être le témoignage de ta vie. Et je peux imaginer Pierre qui reprend la mer aux yeux de tous ses autres collaborateurs, de tous ses autres collègues, qui lui disent, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est fou. Pourquoi il fait ça? Bon, ben bizarre. C'est plus le temps d'aller pêcher. Et on connaît le reste de l'histoire. Il y a eu une pêche miraculeuse, tellement que les filets n'étaient pas suffisants. Ils ont dû appeler d'autres barques pour venir les aider. Et ce fut le début, on va dire, de cette grande aventure, de cette nouvelle vie pour Simon et les gens qui étaient avec lui. Un pas de foi est public, bien-aimé. L'obéissance va nous amener à vivre un témoignage qui va être visible aux yeux des gens autour de nous. Je vous parlais dimanche d'Abraham. Dieu lui change le nom juste pour être sûr qu'il ne puisse pas se cacher. Il l'appelle Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. C'est pas mal public, un prénom. Personne cache son prénom. Tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est quelque chose pour s'identifier en société. Et voilà, Dieu lui change le témoignage, la façon comment lui va devoir s'identifier. Père d'une multitude de nations. Même chose pour Noé. Construit une arche, il l'a pas construit en cachette dans sa cour. De toute façon, il aurait fallu une cour immense pour pouvoir construire ça en cachette. Et que les gens voyaient ce qu'il faisait avec sa vie. Ils voyaient les choses qui étaient importantes pour la vie de Noé, ils lui posaient des questions. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il ne faut pas avoir peur, nous non plus, de qu'on nous pose des questions sur tu vis différemment, tu parles différemment, tu penses différemment. Il y a quelque chose de différent en toi. C'est quoi? Eh bien, c'est notre témoignage public qui est résultant d'une foi et d'une obéissance qui est authentique. Mais avec ce que je veux finir, c'est que de pas de foi, pour que vraiment on puisse profiter de tout ça, le pas de foi doit être pris aussi dans une approche qui est peut-être un peu nouvelle pour certains ou différente. C'est que bien souvent, on fait usage de la foi pour notre propre bien. J'applique la foi seulement pour ce qui me concerne, ou pour ce qui est dans mon intérêt, pour ce qui me convient, pour ce qui touche ma vie. Le reste, ben, il y aura sa foi, ou c'est à lui à travailler sa foi, ou c'est à elle à travailler sa foi, et Dieu s'occupera de cette personne-là. Bien des fois, on pense que c'est justement la foi, c'est juste pour moi, entre moi et le Seigneur. Mais il y a cette histoire-là du paralytique dont les quatre amis ont amené à Jésus par le toit. Ces quatre amis-là avaient la foi. On ne sait pas si le paralytique l'avait, mais ces quatre amis-là avaient suffisamment de foi pour lui dire, « Ok, mon ami, aujourd'hui, tu ne restes pas là. Aujourd'hui, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus. » Et ils ont eu assez de foi pour dire, « Ok, la maison est remplie, on ne peut pas rentrer par les portes ou par les fenêtres. Ça ne va pas nous arrêter. On va faire un trou dans le plafond, dans le toit. On va descendre. Parce qu'aujourd'hui, mon ami, tu vas rencontrer Jésus-Christ. » Quelle foi persistante, celle de ces quatre compagnons-là. Donc, ce n'est pas vrai que ma foi, avec mon Seigneur, dans ma vie, c'est comme ça que ça marche. La Bible parle d'unité de la foi, qu'elle est importante, que ma foi est importante pour toi, ta foi est importante pour moi. Elle a un impact. Et d'où l'importance qu'il y ait une unité de la foi. Et donc Dieu, ce qu'il fait dans notre vie et la façon comment il nous positionne, c'est pas seulement pour notre bien. Oui, il veut nous bénir. Oui, il y a les milliers de bénédictions, de promesses de bénédictions dans la Bible pour nous, mais c'est pas juste pour nous, c'est pour que ça puisse couler à travers nous et toucher d'autres personnes à travers nous. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, nous allons lire. Ça parle des ministères, dans le fond, qui sont donnés à l'Église. Et on le lit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les ministères dans le corps de Christ servent à quoi? À édifier votre foi. Le pasteur ou l'évangéliste ou le prophète n'est pas là pour son propre bien. Il n'a pas reçu cet appel de Dieu dans sa vie pour son propre bien, pour que lui bénéficie de privilèges ou d'avantages. Ceux qui font ça abusent et contreviennent à la parole de Dieu. Et bien sûr, ils devront rendre des comptes au Seigneur pour cela. Parce que ce n'est pas cela à quoi le Seigneur a appelé ces hommes, ces gens, en leur donnant des ministères. Il leur a donné des ministères et des appels. Il nous a donné. Donc même dans mon cas, ce que Dieu me donne n'est pas pour moi, mais pour vous. Ce que Dieu donne aux pasteurs ici n'est pas pour eux, pour le garder pour eux et pour le donner. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'à travers nous, votre foi soit fermée, votre foi soit édifiée, votre foi soit restaurée, que vous soyez encouragés, que vous puissiez développer davantage dans le Seigneur une foi qui est pure et authentique. Donc les ministères ont été donnés à l'Église et non le contraire. Ce n'est pas l'Église qui a été donnée au ministère. Et lorsqu'un serviteur fait son travail, eh bien c'est quand on peut voir que la foi au milieu de l'assemblée prend forme, prend force, elle est édifiée, elle est affermie. À ton niveau également, tu peux dire que tu fais un bon travail lorsque tu es avec un bien-aimé et que tu aides, tu affermis le frère, tu l'encourages, tu l'édifies dans la foi en Jésus-Christ, pas pour qu'il soit dépendant de toi et que tu deviennes important à ses yeux, non, pour que il aille vers Christ et que sa foi prenne des ailes, prenne son envol avec le Seigneur. Esther est le parfait exemple, et je finis avec ça. Esther qui était dans le palais de l'empereur, pas pour bénéficier d'une vie royale avec tous les bénéfices, avec toute manucure, pédicure et toutes les cures qu'elle pouvait avoir à tous les jours. C'était pas ça. Oui, elle avait tous ces bénéfices-là, mais Dieu ne l'a pas placée là pour son propre bien à elle. Dieu l'a placée là parce qu'il y avait une menace pour le peuple de Dieu. Et Dieu l'a positionnée à cet endroit-là pour qu'elle puisse servir au plan de Dieu et bénir le peuple de Dieu. Dieu, là où il va te placer, il va te placer là où est-ce qu'il va te bénir, mais là où est-ce que tu vas servir son œuvre, son plan, et tu vas bénir son peuple et les gens autour de toi. Et lorsque tu regardes maintenant ta vie dans cette perspective-là, eh bien, tu permets au Seigneur d'en faire plus. Parce que tu arrêtes de regarder vers toi, d'être centré sur toi-même, et tu commences à ressembler plus à Christ, qui lui était centré sur toute l'humanité pour la sauver. Et donc, ma bénédiction n'est pas un moyen pour moi d'obtenir une satisfaction, mais plutôt un moyen d'être utile au Seigneur. Donc la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu peux demander, Seigneur, de quelle façon, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, si tu penses qu'il y a trop de choses qui se passent dans ta vie, ou qu'il n'y en a pas assez qui se passent dans ta vie, la prière est la même, Seigneur. De quelle façon tu veux m'utiliser? Seigneur, de quelle façon tu veux que j'encourage quelqu'un? Tu veux que ma vie serve de témoignage pour encourager la foi, affermir la foi de quelqu'un. Tout cela est possible, bien-aimé, lorsqu'on décide de faire un pas de foi et de faire confiance au Seigneur. On va se mettre debout, on va prier. On va remercier Dieu pour ce temps. Et que maintenant qu'on va quitter, bien qu'il y ait cette méditation qui se poursuive dans certains cas ou dans d'autres, qui puisse débuter sur est-ce que je marche vraiment par la foi? Est-ce que ma foi est utile pour le plan de Dieu? Et sinon, qu'est-ce que je dois changer à la lumière de ce qu'on a entendu aujourd'hui? Est-ce que je pense trop à moi-même? Est-ce que je me plains trop? Ou est-ce que je devrais commencer à plutôt me positionner devant le Seigneur et dire, Seigneur, comment est-ce que tu veux m'utiliser? Comment est-ce que tu veux utiliser ma vie? Et juste se laisser surprendre par le Seigneur. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi, ton œil ne l'a pas encore vu, ton oreille ne l'a pas encore entendu, et ça n'a même pas été initié dans ton cœur encore. Il y a des choses que Dieu n'a même pas commencé comme œuvre dans ta vie. Alors, ne ferme pas la porte au Seigneur. Au contraire, ouvre-la grand pour laisser toute la plénitude de Dieu envahir ta vie. Seigneur Jésus, ce soir, nous nous remettons entre tes mains. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Nous connaissons tellement peu à propos, Seigneur, de la vie en toi et de ce que tu as préparé pour nous. Peut-être, Seigneur, parce que nous sommes trop distraits, parce que nous regardons dans le monde et nous ne regardons pas vers toi. Peut-être, Seigneur, parce que nous ne prenons pas le temps de chercher ta face. Une chose est sûre, on te prend pour acquis trop souvent et on pense, Seigneur, qu'on a fait le tour de la chose, du sujet également. Mais il y a des choses que tu n'as pas encore initiées en nous. Il y a des choses que nos yeux n'ont pas encore vues, ni nos oreilles entendues, que tu as préparées, Seigneur, pour nous. Seigneur, que cette parole change notre perspective, Seigneur, par rapport à la vie, par rapport au présent, par rapport au futur, par rapport aux décisions que nous aurons à prendre, Seigneur, ici sur terre. Seigneur, que tout cela, nous puissions le faire avec foi, avec confiance, en sachant que si, lorsqu'on sort du bateau, on le fait avec ta parole, confiance en toi et en accord avec ta parole, Seigneur, et qu'on te fait confiance. On ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas trop, on ne contrôle plus, mais toi, Seigneur, tu contrôles toutes choses. Alors, Seigneur, il est temps que nous commencions également à marcher sur les eaux. Dans les circonstances, les choses qu'il y a dans notre vie, il est temps, Seigneur, que nous puissions faire des pas de foi sur ces eaux troublées de ce temps dans lequel nous vivons, pour que, Seigneur, tu sois glorifié. Aide mes bien-aimés, Seigneur, qu'ils soient fortifiés, édifiés dans leur foi, Seigneur, et qu'ils puissent être des instruments utiles pour ton plan et pour bénir, Seigneur, les gens autour d'eux. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, garde notre retour à la maison, notre chemin, Seigneur, soit sous ta protection, notre sommeil également, Seigneur, et le reste de cette semaine. Pour la gloire de ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés, allez dans la paix et surtout dans la foi en Jésus-Christ, car sans elle, il est impossible. Impossible. Que Dieu vous bénisse.